Content d'être parmi vous ce matin. Je savais pas si j'allais être là. Avec le bébé qui est dû d'un jour à l'autre. J'étais pas certain, mais je priais, je dis au Seigneur. Seigneur, fait que je suis pas obligé d'appeler Georges samedi dans la nuit pour lui dire qu'il prêche. Fait que j'étais content de pouvoir être parmi vous ce matin. Content de pouvoir laisser un repos à notre frère aussi. Je parle de Georges, bien sûr. J'aimerais ce matin continuer la série que j'ai commencée avec vous là, quelques temps sur les 10 commandements. La dernière fois que j'ai enseigné, on a regardé dans le fond le premier et le deuxième commandement ensemble. Pour faire un bref résumé, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là, nous avons vu que le premier commandement défend contre l'idolâtrie. Il nous interdit d'adorer ou de glorifier d'autres dieux que Dieu lui-même. Nous avons aussi regardé le deuxième commandement qui nous interdit de faire de fausses représentations de ce Dieu, de Dieu. Dieu étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc toute représentation, image de Dieu, d'une des trois personnes de la Trinité est une violation de ce commandement puisqu'elle représente faussement qui est Dieu. Donc avant d'aller dans le troisième commandement, j'aimerais revenir sur certaines questions qui m'ont été posées à la fin de la prédication pour les clarifier. J'avais dit que je le ferais, donc je vais le faire. On m'a fait remarquer l'exemple du veau d'or au mont Sinaï comme étant un bon exemple du deuxième commandement, et effectivement, c'est un des très bons exemples qu'on a dans la Bible. Je vais vous lire dans Exode 32, versets 1 à 5, on lit « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous avait sortis du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Donc, il était inquiet. Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Donc, on voit effectivement que le peuple n'a pas voulu se faire une représentation d'un autre Dieu. C'était pas nécessairement une violation du premier commandement en soi. Donc, il n'était pas en train de se créer un autre idole, un autre Dieu. Ce qu'il était en train de faire, c'est d'essayer de se créer une image de leur Dieu. Parce que ça dit, ils reconnaissent comme étant « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Donc, ils parlaient de leur Dieu, mais ils voulaient faire une représentation physique de ce Dieu-là parce qu'il avait perdu Moïse puis il était inquiet. Il est donc question d'idolâtrie ici, mais pas question d'idolâtrie ici, mais que le peuple a voulu se fabriquer une image de leur Dieu qui serait physiquement tangible pour eux. Et c'est à cause de ce grave péché que Moïse brise les premières tablettes de la loi et qui devra remonter au mont Sinaï pour plaider devant Dieu. Oui?
Mais c'était quoi la question?
C'était pas une question, celle-là, c'était juste quelqu'un qui m'a fait remarquer que le veau d'or est un bon exemple du deuxième commandement. Excuse. C'était pas clair. Donc, c'était plus un commentaire qui m'avait été mis que je trouvais pertinent. La deuxième question portait sur la légitimité des images de Jésus puisqu'il a été fait chair dans sa personne. Donc, on disait, vu qu'il a été fait chair, Jésus, est-ce qu'on peut pas faire d'image de lui? Notre frère Alexandre m'a dirigé vers Colossiens 2:9. Qui est d'ailleurs une très bonne explication, on peut lire, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Donc, bien que Jésus a été fait chair, la pleine divinité de Dieu habitait corporellement en lui. Donc, c'est un principe très, très fondamental de Jésus-Christ. Il est pleinement homme et pleinement Dieu à la fois. Donc, adorer une image de Jésus aujourd'hui serait un blasphème, puisque l'image que nous voyons n'est pas pleinement et corporellement habitée du Saint-Esprit. Ce serait comme d'adorer une enveloppe vide. Jésus étant pleinement humain et Dieu en même temps, Et c'est seulement dans cet état-là qu'il pouvait être adoré durant son temps sur la terre. Maintenant, il est adoré en esprit et en vérité. Donc, à moins que vous puissiez dire que l'image que vous regardez de Jésus est pleinement habitée corporellement par la divinité de Dieu, c'est une offense au deuxième commandement. Donc, c'est toujours une offense au deuxième commandement. C'est ce que ça veut dire. La dernière rectification, et ça, c'est une rectification que j'aimerais faire avant d'entrer dans notre sujet ce matin, c'est mon utilisation des termes qui est revenue quand même souvent. J'ai souvent parlé de band de louanges ou de trucs comme ça. J'ai utilisé ces expressions quelquefois dans mes prédications. J'aimerais spécifier que je ne suis pas contre la musique, ni contre aucun type d'instrument ou de style de chant particulier. Ceci étant dit, ce que je veux dire quand je dis ça, c'est que l'adoration de Dieu et la musique sont deux choses séparées, sont deux choses distinctes. Dieu doit être adoré peu importe le niveau de musique qui est joué. Donc, j'ajouterais aussi, même si certains peuvent être en désaccord avec moi, qu'un temps de louange sobre avec des instruments qui n'enterrent pas la voix des gens qui adorent durant le culte serait favorable. La louange vient d'un cœur régénéré et non pas d'une stimulation externe comme la musique. Donc, le culte devrait être centré sur les paroles de l'assemblée et non pas la musique en elle-même. Bien que une bonne musique, ce soit plaisant et que j'aime bien ça, c'est pas le centre et c'est pas la priorité du culte. Donc, je voulais juste clarifier ce que je voulais dire quand je disais ça. J'aurai sûrement l'occasion d'apporter un message un jour pour aller plus en profondeur sur ce que je crois que la Bible dit du culte et de l'adoration, puis comment ça devrait être fait. Ça me fera plaisir si c'est un sujet qui vous intéresse, qu'on puisse le développer ensemble un jour. Mais je voulais juste clarifier ce que je voulais dire quand je disais ça. Prions avant d'aller dans l'enseignement en soi. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci parce que tu nous révèles ta bonté, Seigneur, ta personne et ta gloire dans nos vies, à travers l'Église, Seigneur, à travers nos familles. Nous prions que tu puisses être glorifié ce matin, Seigneur, par notre écoute et notre application, Seigneur, de ta loi, de tes commandements. Parce que nous voulons t'aimer, Seigneur, et de t'aimer, c'est d'obéir à tes commandements. Merci parce que tu es bon, tu es saint, et tu es surtout patient, Seigneur, et plein de charité pour nous. Merci pour ton amour et pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Nous prions ce matin que tu puisses être vivant et te révéler à nos cœurs, Seigneur. Amen. Donc, on va commencer par lire Exode 20, verset 7. Donc, il n'y aura pas trop de saut de mouton ce matin, parce que notre verset est quand même court. Le troisième commandement est un court verset dans Exode 27. Un court verset qui va prendre 45 minutes à expliquer. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc, notre réflexion naturelle serait d'interpréter ce passage comme étant simple et direct dans ses intentions. Mais il s'avère plus large en répercussion qu'on le croit peut-être à première lecture. L'aspect le plus évident du commandement est son sens littéral, c'est-à-dire que l'on ne devrait pas prendre le nom de Dieu en vain. On traduit ainsi de l'hébreu le nom éternel par Jéhovah, Dieu de toute éternité, ton Elohim, ton Dieu puissant et majestueux. Donc, si on va dans Lévitique 19, ben, vous n'êtes pas obligé de tourner, je vais vous les lire. Dans Lévitique 18, 19 et 21, on voit divers exemples de ce qui tombe sous l'offense de ce commandement, dans le fond. Dans Lévitique 18, 21, par exemple, ça dit: tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Dans Lévitique 19, 12, on lit: vous ne jugerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Dans Lévitique 21, versets 5 et 6, on dit: Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête, ils ne raseront point les coins de leur barbe, ils ne feront point d'incision dans leur chair, ils seront saints pour leur Dieu, ils ne profaneront point le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu. Ils seront saints. Donc, ce sont tous des exemples de ce qui est ou était de prendre le nom de Dieu en vain. Évidemment, un pasteur qui se coupe la barbe aujourd'hui ne pêche plus. C'est pas pour ça que je garde ma barbe. Puisque cette loi cérémonielle fut accomplie à la croix par Jésus-Christ et ne lie plus les hommes de cette façon-là. Donc, le sacrifice ultime a déjà été fait. Nous sommes parfaits, parfaitement purifiés devant Dieu, avec ou sans barbe. Donc. Mais c'était quand même un exemple que dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu qui étaient saints, qui allaient en présence de Dieu, devaient suivre ce que Dieu avait commandé. Cet exemple sont simplement pour vous illustrer que le concept de prendre le nom de Dieu en vain est beaucoup plus large que simplement sacré. Mais la question demeure, qu'est-ce que c'est de prendre le nom de Dieu en vain? Donc, je veux voir avec vous ce matin deux grandes catégories de ce commandement et leurs implications respectives qui englobent plusieurs aspects de notre vie. Le puritain Thomas Watson, dans son commentaire des 10 commandements, énumère ces 6 points que je vais vous partager comme étant des façons de briser ce commandement parmi les 12 que lui, il liste dans son commentaire. Moi, j'ai ressorti ceux-là que je trouvais les plus pertinents. Le manque de révérence, la profession vaine, l'adoration externe hypocrite, l'utilisation erronée de la parole de Dieu, de falsifier nos promesses, ou de s'exprimer sans souci de l'honneur de Dieu. Donc, tous ces types de transgressions tombent sous des catégories verbales ou plutôt de style de vie, de choix, d'action. Mais la première catégorie que je veux regarder avec vous ce matin, puis probablement la plus, je dirais pas facile, là, mais la plus... celle qu'on voit en premier quand on regarde le passage, c'est l'aspect de la transgression verbale. La grande première catégorie, c'est la transgression verbale de ce commandement. Donc, quand nous lisons ce passage, il nous vient rapidement l'idée des sacres ou des jurons en tête. C'est effectivement à partir de ce commandement qu'on devrait s'abstenir d'utiliser le nom de Dieu en vain. Mais il y a beaucoup plus à ce commandement qu'une simple abstention des mots en soi. La preuve, c'est que ce n'est pas les mots « Jéhovah » ou « Elohim » en soi qui sont fondamentalement offensants, mais bien leur utilisation. Dans Matthieu 6, 9, on lit au début du Notre Père, « Voici donc comment vous devriez prier. » Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, le nom de Dieu peut être sanctifié par nos bouches, mais ne devrait pas être dit en vain. Il nous apparaît donc clair que le nom de Dieu peut et devrait être utilisé, mais toujours dans un contexte de révérence, de sérieux, d'adoration, de prédication, de proclamation, afin qu'il soit ainsi sanctifié. Donc, les Juifs, souvent, historiquement, n'utilisaient quasiment pas le nom de Dieu, Jéhovah et Elohim. Ils évitaient toujours de dire ces noms-là parce qu'ils avaient peur. Mais ce n'est pas ce que le texte essaie de nous dire. Il ne nous dit pas « vous n'avez pas le droit de dire ces mots-là spécifiquement ». Il dit « vous n'avez pas le droit de prendre ces mots-là de façon vaine ». Donc, on va élaborer un petit peu sur ce que ça veut dire, mais... L'idée derrière le nom de quelqu'un invoque beaucoup plus qu'une appellation linguistique. C'est pas juste un nom sur un papier. Le nom inclut la personne entière, ce qu'elle est. Donc, Michael Beaulieu, c'est pas simplement un nom qui flotte dans le monde, dans l'imaginaire. C'est le nom qui s'attache à mon être. C'est ce qui définit toute mon humanité, ma personne, c'est moi. Michael Beaulieu, sans moi, c'est rien. Si c'est juste un nom, c'est rien. C'est ainsi que le nom de Dieu ne fait pas référence seulement à comment Dieu se nomme, mais aussi ce qu'il est. Dans Psaume 106, verset 8, on lit « Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. » À multiples reprises, la Bible fait référence au nom de Dieu comme étant digne d'être loué, adoré, vénéré et sanctifié, puisqu'il a fait de grandes choses pour ses enfants. Si vous aviez besoin de raison pour ne plus user du nom de Dieu en vain dans votre vie, cette raison à elle seule devrait grandement vous motiver. Le nom de Dieu parmi le peuple de Dieu devrait être utilisé avec sobriété et révérence. Parce qu'il est saint et que l'utilisation vaine de son nom l'offense grandement. Dans son livre sur les 10 commandements, G. Dumas compare la gloire qui est due au nom de Dieu ainsi. Ce serait de considérer quelque chose de très pesant à la légère. De donner la gloire de Dieu serait alors de la remplacer par la malédiction et le blasphème. Donc, ce serait donc de traiter quelque chose qui est pesant, qui a un poids, puis de dire que cette chose-là est légère, puis n'est pas importante. Donc, on dérobe la gloire de Dieu en faisant cela. C'est ce qu'il essaie de dire par cette citation. Il apparaît donc capital de ne pas prendre à la légère comment nous utilisons le nom de Dieu. Non pas qu'il soit interdit de l'utiliser, comme j'ai déjà mentionné, mais que son utilisation représente bel et bien tout le poids qui s'attache à la gloire du nom de Dieu quand on le mentionne. Évidemment, ce principe signifie aussi que de prendre le nom de Dieu en vain, c'est aussi d'utiliser des termes de sa parole divine à des fins indignes. J'ai souvent entendu des croyants, plus de mon âge, là, peut-être pas dans votre génération, à cause de la façon que souvent on est élevé, mais des jeunes de mon âge, j'ai souvent entendu des croyants, des chrétiens dire que l'utilisation vaine de sac, quand ils disaient juste des objets comme l'hostie ou le tabernacle, que c'était des objets qui étaient glorifiés par le catholicisme romain, puis que c'était pas vraiment des sacs de la façon qu'ils l'utilisaient. C'est comme ça qu'ils défendaient leur utilisation de ces mots. J'argumenterais qu'à la lumière d'une bonne interprétation du 3e commandement, l'utilisation vaine de mots qui désignent des objets ou des pratiques spirituellement significatives de la Bible, à des fins indignes et souvent malsains dans leur langage, sont en effet une offense au nom de Dieu. Je vous donne un exemple pour défendre mon point. L'hostie, par exemple, n'est pas seulement un morceau de pain sans levain que les catholiques romains mangent pour célébrer la Sainte-Cène. Le mot lui-même de sa racine étymologique dans le latin signifie hostia, qui veut dire victime offerte expiatoire ou victime offerte en expiation. Donc, bien que nous n'utilisons pas le mot hostie lors de la Sainte-Cène en tant que protestant, comme un objet sacré chez les protestants, qui n'est pas le cas, la signification du pain sans levain dans la Bible représente clairement la mort expiatoire de Christ. Et la Sainte-Cène est tout de même très spirituellement importante et communique un message glorieux pour les chrétiens. Donc, comme la citation de Thomas Watson que j'ai citée plus tôt, de prendre le nom de Dieu en vain, c'est aussi d'utiliser les paroles de Dieu de façon indigne et sans souci pour son honneur. Ça ne se limite pas simplement au nom spécifique de Dieu, mais à toute parole qui affecte la gloire qui s'attache au nom de Dieu. Quel type de serviteur, sauf celui rebelle, oserait utiliser les paroles de son maître à des fins mondaines, sans importance, comme si ses paroles avaient aucune valeur? Comprenez-moi bien, je comprends que la plupart des gens utilisent ce type de juron pour noter une intensité dans leur communication, mais l'utilisation de ces termes, ou même directement des noms de la Trinité, sont une grande offense à Dieu, notre Maître qui mérite que l'on se soucie de sa personne et de ses paroles. Il est amplement possible d'intensifier nos discours par d'autres moyens que ceux de jurons à connotation biblique. Ce type de communication démontre plus qu'un simple manque de vocabulaire. Il démontre une arrogance et un manque de souci pour Dieu. Ce n'est pas par respect pour les catholiques romains que nous n'utilisons pas ces jurons, mais par respect pour Dieu qui se voit vexé d'une utilisation odieuse de ses paroles, de ses principes, de ses objets, qu'il a lui-même inspirés, ou des objets qui font partie de la riche héritage spirituel que Jésus-Christ est venu exemplifier dans sa chair. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que tous les patois qui dénotent une intensité sont fondamentalement péchés, là. Mais je vous invite à une grande prudence dans votre choix de mots, en considérant que l'implication de notre langage est plus large que simplement bien paraître ou pas déplaire aux gens. C'est aussi une question d'être agréable à Dieu. Je fais une petite parenthèse pour les sacres dans un contexte moderne. Les jurons, les sacres, on se comprend. Un des arguments souvent utilisés par ceux qui s'opposent à l'interprétation que je présente, celle orthodoxe du texte du troisième commandement, c'est-à-dire que les jurons, ils vont dire que les jurons utilisés de nos jours n'ont plus dans la vie des gens ces mêmes significations divines qu'il avait dans le temps de la Bible. C'est dit, en fait, j'ai lu un petit récit historique qui est intéressant, qui disait que presque tous les hommes de Dieu à leur époque ont relevé ce péché du troisième commandement de blasphémer le nom de Dieu, de le prendre en vain comme étant l'un des plus présents et des moins punis de leur société, de leur temps. Je pense qu'on peut observer ce même phénomène aujourd'hui et dire la même chose que ces hommes, où les gens utilisent largement le nom de Dieu en vain, sans même y penser deux fois. Il faut comprendre que le blasphème dans le cadre de l'Ancien Testament était beaucoup plus facile à voir et à condamner, puisque les hommes parlaient littéralement contre le Dieu d'Israël, sachant son nom. Et le blasphémant dans leur cœur en plus. Donc c'était flagrant quand ils brisaient le troisième commandement. L'argument que ces gens ont, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne font plus cela dans leur cœur, que les mots qu'ils disent de leur bouche, pour eux, ont aucune signification divine, dans le sens où ils reconnaissent même pas qu'il y a un Dieu. Donc certains disent qu'à cause de cela, les jurons dans un contexte moderne ne sont pas nécessairement une offense à ce commandement. Ils disent qu'ils sont souvent utilisés comme exclamation quand on est surpris ou en colère, mais que ce n'est pas attaché aux mots et aux significations que la Bible donne à ces mots, que nous, on connaît à cause de notre foi. Pour la plupart de ces gens, Dieu n'existe pas. Et ils n'en font aucun cas de toute façon. Vous devinerez que je suis contre ce raisonnement. Peut-être que vous ne l'avez pas deviné, mais je suis contre. Je crois que c'est un raisonnement tordu. Mais je vais laisser G. Duma, qui est une bonne référence en ce qui concerne les 10 commandements, vous convaincre par cette belle citation. Et je cite: En argumentant que les jurons et les paroles vaines modernes sont quelque chose de différent que ceux dans la Bible, nous ne nous camouflons pas du mal dont Bullinger et les nombreux prédicateurs encore aujourd'hui nous mettent en garde. Il est impossible de voir ces paroles vaines comme acceptables. Nous devons en effet exprimer nos émotions et parfois ajouter de la force à nos paroles. Mais si ceux-ci exigent le blasphème, alors nous avons affaire à plus qu'un vocabulaire appauvri. Nous ne traitons pas ici d'une simple picadille, d'un délit mineur au bord même de la conscience moderne. Même si le blasphème moderne n'est pas en soi une démonstration consciente de l'incrédulité, il est néanmoins très clairement un symptôme de cette incrédulité. Les gens qui ont tourné le dos à Dieu prennent naturellement une tangente en utilisant son nom sans rien y voir de mal. Et c'est ici notre première préoccupation qui va plus loin que la simple lutte contre ce qui est un symptôme. Fin de la citation. Donc, en résumé, le manque de conscience des non-croyants face à Dieu ne les excuse pas, mais révèle simplement un problème plus profond chez eux, c'est-à-dire le manque de foi. Donc, le blasphème de prendre le nom de Dieu en vain, c'est un symptôme de ne pas considérer Dieu. Évidemment, on n'est pas obligé de tolérer des gens qui sacrent à outre mesure autour de nous. On peut leur demander d'arrêter, ça se fait quand même assez poliment. Mais il faut réaliser que le problème n'est pas ultimement qu'ils utilisent des sacres, mais qu'ils n'ont pas la foi, et c'est pour ça qu'ils sacrent, parce qu'ils ne considèrent pas Dieu dans leur vie. Mais en tant que croyant, on n'a pas cette excuse, je dirais. Et on ne devrait pas utiliser le nom de Dieu de cette façon. Il y a plusieurs autres façons de briser ce commandement avec l'usage verbal, qui sont un petit peu moins évidentes que celui des sacres ou des jurons. Je pense que celui-là est probablement le plus évident pour nous ce matin, là. Mais qui sont tout de même importants. Donc, j'en ai ciblé quatre que j'aimerais voir avec vous. Le premier étant de prendre le nom de Dieu en vain par la sorcellerie. C'est ici une question... Il est ici question de gens qui utilisent ou invoquent le nom de Dieu en espérant utiliser sa puissance surnaturelle pour d'autres motifs que sa gloire. Je parle de la gloire de Dieu. Donc, ce n'est possiblement plus la façon la plus courante, j'en conviens, d'offenser le nom de Dieu, mais tout de même, plusieurs personnes aujourd'hui essaient d'utiliser la religion ou la spiritualité comme un objet de popularité pour leur propre gloire personnelle. Ils dérobent ainsi la gloire de Dieu qui lui appartient. L'occultisme est bien réel, même aujourd'hui. Et certaines personnes en recherche surnaturelle blasphèment le nom de l'Éternel en utilisant vainement au travers des rites et des incantations qui ont pour but de révéler des mystères qui ne sont pas révélés à l'homme. Donc l'occultisme et l'incantation du nom de Dieu en vain dans ce genre de rite est une grande offense au nom de Dieu. Je ne passerai pas trop de temps, hein. Je vais passer au deuxième point. Je ne pense pas que c'est... En tout cas, j'ai pas l'impression que c'est un problème majeur dans notre société. Peut-être que je me trompe, mais je sais qu'il y a des gens qui utilisent le nom de Dieu de cette façon-là. Mais dans nos vies personnelles, j'ose espérer que ce n'est pas le cas. Si vous pratiquez l'occultisme, je vous prie de vous repentir maintenant. Deuxième point, prendre le nom de Dieu en vain par la fausse prophétie. Et celui-là est... je dirais, beaucoup plus pertinent encore aujourd'hui. Les termes « l'Éternel dit » ou « alors Dieu dit » reviennent très souvent et sont utilisés en quelque sorte comme, dans la Bible, des mots-clés qui signifient « ce qui suit est une prophétie ». Donc, c'est-à-dire une parole révélée directement de la bouche de Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi l'Ancien Testament traite la fausse prophétie aussi sérieusement. Dans Deutéronome 15, versets 20 à 22, on nous sert cet avertissement. « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom de d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole de l'Éternel que l'Éternel n'aura pas dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, il n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Fin de la citation. Donc, la punition pour de fausses prophéties n'est rien de moins que la mort elle-même, physique. C'est une offense terrible, puisque les faux prophètes, le faux prophète, bibliquement, est celui qui dit « l'Éternel dit » sans que l'Éternel ait dit, sans que ce soit vrai. Il attribue donc à Dieu un faux témoignage et de fausses paroles. Et quand ces prophéties ne s'accomplissent pas, il empiète la réputation de Dieu et de son nom. La seule vraie prophétie biblique vient de Dieu et s'accomplit toujours. Toujours. Sans aucune exception. La divination, ce qu'on appelle la divination en théologie, vient de l'homme et ne s'accomplit pas toujours, mais elle prétend venir de Dieu. C'est ainsi qu'elle devient une fausse prophétie. C'est ainsi qu'on la reconnaît comme étant une fausse prophétie. De cette façon, le nom de Dieu est utilisé en vain et offense Dieu. Je dirais que c'est d'ailleurs un point important à retenir quand on considère et qu'on réfléchit au mouvement charismatique et l'impact de la façon dont ils vivent leur foi. Souvent, ces églises sont fières d'avoir parmi eux des soi-disant prophètes qui partagent aux gens des supposés oracles de l'Éternel. Je vous cite un des exemples les plus flagrants aux États-Unis. Il y a un groupe qui s'appelle les Kansas City Prophets, qui, par exemple, eux, se vantent aux États-Unis à chaque année de faire plus de prophéties que toutes les autres dénominations ensemble. Certains de leurs membres ont publiquement dit que leur moyenne de bonnes prophéties est autour de 65 % et que leurs membres matures sont autour de 80 à 95 %. Ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce qu'ils sont encore vivants? Le mouvement charismatique est rempli d'incohérences de cette façon, comme celle-ci. Et ça nous démontre que leur cœur n'est pas toujours pour Dieu, mais bien pour leur propre gloire. C'est triste de voir des milliers de croyants tomber dans le panneau d'un système fait pour glorifier le nom de l'homme au lieu de celui de Dieu, mais qui utilise le nom de Dieu pour faire cela. Je terminerai ce point avec deux observations. Premièrement, Dieu n'utilise plus la prophétie, mis à part la proclamation de sa parole. Puisque la révélation est dite dans la Bible à être complète dans ce qu'on appelle le canon de la Bible, et nous croyons Dieu, et nous croyons que ce qu'il a écrit quand il a écrit ça, c'était vrai. Donc nous croyons que sa révélation est complète et qu'on n'a plus besoin d'inspiration extérieure pour prédire le futur. Dieu a parlé, il a écrit sa révélation, elle est dans la Bible, et quand on veut connaître la pensée de Dieu, on se tourne vers la Bible, et non pas vers des choses qu'on croit que Dieu nous révèle dans notre cœur parce qu'on a des émotions et des sentiments sur le coup. Le cœur de l'homme est tortueux. La Bible est toujours juste. Donc, par défaut, tout type de prophétie futuriste n'est rien d'autre qu'une arnaque pour attirer les regards et qui dit venir de Dieu, mais qui s'avère une fausse prophétie. Même si par chance leur prophétie arrive parfois, parce qu'on s'entend, là, ils disent que c'est des prophéties, mais parfois c'est ridicule. Là. Moi aussi, je peux prédire qu'il y a un enfant qui va passer cet après-midi dans la rue. Tu sais, il y a des fois que ça en est aussi ridicule que ça. Mais même si par chance leur prophétie arrive parfois, si elles ne viennent pas de Dieu, c'est une fausse prophétie. Donc, de prendre la prophétie et de l'appliquer aujourd'hui, comme dans le contexte de l'Ancien Testament, sans appliquer les conséquences bibliques qui s'attachaient à cette prophétie-là dans l'Ancien Testament, c'est une incohérence. On ne peut pas dire qu'on va appliquer la prophétie de la même façon que les prophètes de l'Ancien Testament l'appliquaient, mais dire On va juste laisser de côté la conséquence si c'est pas vrai. Ça, c'est plus bon pour aujourd'hui. Donc, il y a une grande incohérence là-dedans. Si la prophétie s'applique de la même façon aujourd'hui que dans l'Ancien Testament, il faut obéir à la conséquence. Comme je vous ai expliqué, je ne crois pas que la prophétie s'accomplit de la même façon dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien, de toute façon. Donc, la prophétie aujourd'hui n'est plus de prédire des choses futuristes au nom de Dieu. Dieu ne parle plus comme ça parce qu'il s'est révélé. Il s'est révélé complètement et pleinement par la Bible. On n'a plus besoin de ce type de prophétie futuriste. On a mieux. On a la pleine parole et on a le Saint-Esprit pour nous guider à comprendre ce que Dieu nous a donné dans sa parole. C'est beaucoup mieux que de la prophétie futuriste qu'avait le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. C'est beaucoup mieux. Donc, je crois sincèrement, et je veux pas rentrer le clou dans la plaie, comme on dit, là, mais je crois sincèrement que des gens qui adhèrent à ce type de mouvement blasphèment contre Dieu dans leur utilisation du troisième commandement, qu'il y ait des bonnes intentions ou non, malheureusement. Je vais laisser ça là pour ce qui est de ça. Le troisième point, c'est de prendre le nom de Dieu en vain par de faux serments. Donc, ce point est assez direct en soi, là. Les serments sont pris avec sérieux puisque c'est devant Dieu que nous prenons des engagements. Dans Lévitique 19, 12, nous lisons à ce sujet: « Vous ne jurez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » C'est d'ailleurs quand même assez spectaculaire quand on y pense que des pays d'Occident comme ici, on fait encore faire des serments, la main levée à cette heure, je pense, c'est plus sur la Bible, mais la main levée, puis à des places, je pense que c'est encore au nom de Dieu, au nom de la Bible, ou comme ça, légalement, qu'on jure. C'est quand même drôle quand qu'on pense à où notre société est rendue, qu'on ait encore ces choses-là dans le système légal. Moi, du moins, ça me surprend. Mais quand nous faisons un faux serment ou que nous brisons nos promesses, nous péchons, puisque le nom de Dieu est entaché. Bien que nous ne devrions pas briser nos promesses de façon générale, là, remarquez ici que je ne parle pas de vœux aléatoires qu'on fait pour s'engager dans un scout, là, ou je ne sais pas quoi. C'est pas ce type de vœux-là que je parle, là. Mais je parle des serments, de des vœux qui sont faits au nom de Dieu, là, devant Dieu. Donc, un serment, ça va peut-être aider que j'explique c'est quoi, un serment biblique est donc de donner sa parole en prenant Dieu comme étant témoin à charge. C'est pourquoi les serments bibliques étaient fortement considérés comme étant importants jusqu'à récemment dans l'histoire du monde, mais c'était quelque chose qui faisait partie du processus légal même, autrefois. Parce que justement, quand les gens venait en cours légal, il disait « Je fais le serment, le vœu devant Dieu que je n'ai pas vu cet homme tromper sa femme, que j'ai volé telle chose. » C'était considéré comme important. On prenait la parole de cette personne-là au sérieux parce qu'il faisait le serment devant Dieu. Et s'il brisait ce serment en disant un faux témoignage, il brisait le troisième commandement parce que le nom de Dieu était pris en vain. La dernière, quatrième façon que je voulais vous partager ce matin, de prendre le nom de Dieu en vain par une répétition des mots vaines. Et je termine cette section en allant un peu plus loin dans l'application pratique de ce commandement. La répétition du nom de Dieu dans nos prières, dans nos paroles, dans nos conversations devrait être aussi restreinte en elle-même. Non pas dans le sens que c'est mal d'invoquer Dieu par son nom durant la prière, mais que dans le sens où une répétition d'un mot peut rapidement devenir une action répétitive et sans signification. Quand on utilise le même mot trop souvent sans trop y réfléchir, il perd inévitablement de leur importance. Et plus grave encore, notre révérence pour ce mot, pour cette personne, pour le sujet duquel on parle dans nos prières peut aussi diminuer. Faisons attention de ne pas tomber dans une prière du style mantra, où nous répétons constamment les mêmes mots sans réfléchir à leur signification. Surtout le nom de Dieu, je dirais, que nous voulons garder saint et honorable dans nos prières et dans nos pensées. On veut toujours, quand on dit le nom de Dieu, penser à Dieu de façon sincère et réfléchir à ce qu'on dit et à la pesanteur du nom de Dieu et ce que ça implique. Dans Matthieu 6, verset 7, on parle exactement de cela dans le début de... un petit peu avant le début de la prière du Notre Père. Ça dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devriez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Donc, vaut mieux quelques mots réfléchis qui viennent du cœur que beaucoup de mots répétés par habitude. C'est d'ailleurs dans ce sens que Calvin aussi parle, je cite, « Christ réprouve la folie de ceux qui, dans le but de persuader Dieu en le suppliant, versent un superflu de mots. Cette doctrine n'est pas incompatible avec les louanges données partout dans l'Écriture sur l'ardeur de la prière, car la prière est offerte avec un sentiment sincère. La langue ne va pas avant le cœur. En outre, la grâce de Dieu n'est pas obtenue par un flux d'insignifiantes paroles, mais au contraire, un cœur pieux jette ses attentions comme des flèches pour percer le ciel. » Donc, je m'accorde à Calvin en disant qu'il ne faut pas confondre l'ardeur de nos prières et la vaine répétition. On peut avoir une prière ardue et sincère et émotive même, mais les supplications peuvent être apportées devant Dieu sans pour autant être répétées comme un mantra avec les mêmes mots. Soyez vigilants, frères. Il ne s'agit pas ici de nous juger les uns les autres quand on prie ou de regarder les prières des autres, mais de sonder nos propres cœurs pour s'assurer que nous ne tombons pas dans le piège, dans ce piège, la répétition abusive, et que nous n'oublions pas la signification du nom de Dieu en faisant cela. Donc, honorons Dieu comme il mérite d'être honoré par nos bouches et nos pensées, en pensant réellement à lui à chaque fois qu'on dit son nom. Usez par-dessus tout, je vous dirais, ça, c'est un petit conseil de patience envers les uns les autres. Le deuxième point, la deuxième grande catégorie dont je voulais parler ce matin, et je vais terminer avec ça parce que j'ai plus de temps, c'est la transgression par le style de vie. Donc, Jean Calvin dit, « Il faut que dans notre cœur et par notre bouche, nous ayons soin de ne rien penser ou de ne rien dire de Dieu ou de ses mystères autrement qu'avec respect et grande sobriété, et qu'en appréciant ses œuvres, nous ne concevions rien qui ne soit pas à son honneur. » Ça, c'est une citation de l'Institution chrétienne. L'autre type de transgression, comme nous le présente cette citation de Calvin, vient de notre vie, de nos choix, de nos actions quotidiennes. C'est une malheureuse réalité du cœur de l'homme que l'hypocrisie peut pousser des hommes à se dire chrétiens tout en n'agissant pas selon les commandements de Dieu. Dieu dit dans sa parole que ceux qui l'aiment vraiment sont ceux qui obéissent à ses commandements. On reconnaît un arbre à ses fruits. Si nous confessions Dieu seulement de la bouche, sans aucune conduite adéquate, le nom de Dieu est pris en vain et nous le blasphémons. Non seulement nous sommes coupables devant Dieu, mais nous sommes aussi coupables d'attirer vers Dieu le ridicule des non-croyants qui nous voient agir ainsi. À cause de ce type d'incohérence, les gens se permettent de renier et de blasphémer Dieu à cause de nos actions. Et Georges nous a lu la semaine passée dans 2 Samuel 12, versets 13 à 14, en parlant de l'histoire de David et Bathsheba. Ceci, « David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Donc David a été épargné du jugement de Dieu qu'il méritait, mais à cause que par ses actions, il a fait atteinte au nom de Dieu et que ses ennemis ont eu raison de blasphémer Dieu à cause de lui, c'est pour ça que l'enfant est mort. Dieu prend au sérieux le témoignage de ceux qui professent de leur bouche son nom, puisqu'ils se rendent ainsi des ambassadeurs de sa parole, des ambassadeurs de son nom. Et ils portent un fardeau d'être des héros, des ambassadeurs de Christ. Dans le Nouveau Testament, on y voit même une implication pour vous, mesdames. Dans Tite 2, 3 à 5, ça dit « Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. » Donc, Paul fait un lien direct entre nos actions, notre style de vie et comment Dieu est vu par les gens qui nous observent. Bien qu'il soit possible que notre réputation soit salie faussement parfois, ne donnons pas l'occasion à l'ennemi d'utiliser notre vie pour contrecarrer le témoignage de l'Évangile et ainsi prendre son nom en vain. Et je vais conclure. J'aimerais terminer avec quelques exhortations d'ordre pratique dans le but de se garder de briser ce troisième commandement. Donc voici 6 trucs pratiques à garder en tête concernant ce commandement. Premièrement, parler avec simplicité pour être compris de tous. Deuxièmement, parler lorsque vous êtes en contrôle de vos émotions. Troisièmement, considérez comme important votre langage et ce qu'il communique aux autres autour de vous. Quatrièmement, ne critiquez pas trop rapidement ou rapidement quelqu'un qui utilise un langage que vous ne jugez pas adéquat. Cinquièmement, ne menacez pas les gens trop vite du châtiment que Dieu seul peut leur donner. Nous ne sommes pas les juges, c'est Dieu qui est le juge. Et sixièmement, n'hésitez pas à défendre avec douceur le nom de Dieu quand il est pris en vain. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un meilleur vocabulaire que les autres ou de bien parler, de bien paraître. Beaucoup d'inconvertis sont de très bons communicateurs, de très bons orateurs à ce niveau-là. Non, il s'agit de considérer notre langage et nos vies, les deux, comme étant le reflet de qui est Dieu, le reflet de son nom, pour que le monde le voit, lui. Nous sommes des ambassadeurs, des héros, des représentants du roi divin. Et les mots ont une signification et un impact, une influence ainsi que nos paroles et nos vies et nos choix et nos actions. Donc, utilisons ces outils, notre vie dans le fond, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de son nom, pour que son nom soit sanctifié par nos bouches et nos corps. Prions.